Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale revient sur la destruction du patrimoine culturel de l'Irak. Depuis le début de l'année, l'État islamique d'Irak et du Levant s'attaque sans merci, à coups de bulldozers, de marteaux-piqueurs ou encore de massues, aux sites culturels les plus anciens et les plus riches que recèle l'Irak, dont nombre sont classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Face à ce nettoyage culturel, l'UNESCO s'active et n'a cessé d'appeler la communauté internationale à se mobiliser. Dans un entretien accordé à la radio de l'ONU, Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, livre un témoignage d'engagement, mais aussi d'espoir. Bonjour Irina Bokova, vous êtes la directrice générale de l'UNESCO. Merci d'accorder cet entretien à la radio de l'ONU. On assiste pratiquement impuissant depuis plusieurs semaines maintenant à un véritable nettoyage culturel en cours en Irak. Il y a d'abord eu le saccage du musée de Mossoul, puis les destructions de la ville antique de Nimrod, suivies de la destruction d'un autre site antique à Hatra, dont vous avez dit que c'était un point tournant dans la stratégie en cours de nettoyage culturel en Irak. Pourquoi ?
Vous savez, dès le début de l'occupation des terroristes de Daesh de l'Irak, et même, je dirais, avant le conflit en Syrie, on a vu beaucoup de saccages, beaucoup de destructions de patrimoine, et je dirais pas seulement le patrimoine mondial, parce que nous avons bien sûr aussi des sites qui sont sur la liste du patrimoine mondial, mais notre préoccupation est beaucoup plus large, parce que le Moyen-Orient, nous savons, la Syrie et l'Irak, c'est le berceau de la civilisation humaine, et c'est pourquoi nous avons été choqués, nous avons été vraiment, je dirais, avec un sentiment d'une tragédie énorme et humaine sur la destruction, spécialement le saccage du musée de Mossoul après Nimrout et Hatra, qui, je dirais, est le point tournant parce que Hatra, c'est aussi le premier capital du premier État arabe. Et je crois que là, il y avait une préoccupation énorme. J'ai invité le secrétaire général aussi de l'Organisation pour la culture, éducation et sciences de l'Organisation internationale islamique de signer avec moi une déclaration qui condamne cette destruction parce qu'il me paraît qu'ici, on a vu qu'il n'y a pas de limite sur la destruction. On détruit des sites assyriens, on détruit des sites de l'époque romaine, de l'époque grecque, maintenant c'est de l'époque arabe et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas du tout accepter. Et c'est pourquoi je considère que on a besoin d'une mobilisation forte de la part des leaders politiques, de la part aussi de tous nos partenaires, mais aussi de la part des leaders religieux, de la part des leaders aussi locaux, pour qu'il y ait une autre mentalité mondiale qui n'accepte pas une telle destruction aujourd'hui, au XXIe siècle. Parce que ce n'est pas seulement une destruction collatérale, ce n'est pas la conséquence collatérale d'un conflit, c'est une destruction délibéré. Je crois que cette destruction délibérée doit s'arrêter.
À propos de destruction délibérée, vous avez d'ailleurs souligné à plusieurs reprises que la destruction délibérée d'un patrimoine culturel est un crime de guerre. On sait aussi que de nombreuses œuvres pillées servent à alimenter des réseaux de commerce illicite d'œuvres d'art qui servent ensuite à financer le terrorisme. Que peut faire la communauté internationale et notamment les pays, les institutions de la région? Quelle stratégie préconisez-vous? Le Conseil de sécurité a récemment adopté une résolution qui engage les États membres à adopter des mesures pour enrayer le trafic illicite des œuvres d'art.
Vous savez, la résolution du Conseil de sécurité est très importante. Elle est très importante parce que c'est une résolution qui parle du financement du terrorisme, mais pour nous, il y a trois paragraphes qui sont directement liés avec tout ce que l'UNESCO fait, avec, je dirais, notre responsabilité. Tout d'abord, sur la protection du patrimoine lié avec la diversité culturelle, cet nettoyage culturel qui se produit aujourd'hui, qui n'est pas acceptable, ça vient avec la persécution des minorités, la persécution de cette diversité culturelle qui existe avec la destruction de leur patrimoine, de ces, je dirais, cette diversité culturelle et finalement avec le trafic illicite des biens culturels. Et je crois que là, c'est mettre en lien les considérations sécuritaires avec les considérations de la protection du patrimoine extrêmement importante pour nous. Parce que nous avons préconisé depuis longtemps, et moi j'ai lancé beaucoup des appels ces dernières années, dès le début du conflit en Syrie, mais maintenant avec la destruction en Irak, de dire que la destruction du patrimoine, ce n'est pas seulement une considération culturelle. Ce n'est pas seulement parce que ce sont des objets, ce sont des sites d'une beauté extraordinaire qu'il faut les protéger, il faut les préserver. Mais parce que c'est toute l'histoire, c'est toute la sécurité, c'est toute la, je dirais, la fracture de ces sociétés, de ces pays qui est maintenant menacée. Et de ce côté-là, tout ce que nous pouvons faire, bien sûr, c'est d'alerter tout ce que j'ai déjà fait, alerter la Cour pénale internationale, Mme Bensouda, parce que selon le statut de Rome, la destruction délibérée du patrimoine est un crime de guerre. Nous avons fait le même avec la destruction des musulmans au Mali. Il y a déjà 3 ans, il y a toute une procédure qui est en cours, dirigée par la Cour internationale pénale. Nous contribuons, nous coopérons avec la Cour, mais il faut utiliser tous les moyens, je dirais tous les instruments juridiques pour protéger et pour après éventuellement punir ces crimes de guerre. Mais de l'autre côté, je crois qu'il faut tout un travail que nous menons avec Interpol, avec le Bureau des Nations Unies sur les crimes et drogues à Vienne. Nous travaillons avec le secrétariat qui s'occupe aussi des sanctions. Nous travaillons avec l'Organisation internationale des douanes. Il y a beaucoup de partenaires qui puissent nous aider aussi de faire arrêter le trafic. Le rôle, je dirais aussi, des pays voisins est important. Le rôle du marché des arts est important et nous sommes en contact, je dirais, permanent, que tous les partenaires soient sur le même rail. Je crois aussi qu'avoir une coalition globale sur ces sujets importants, il nous faut la contribution de la communauté des experts, des archéologues, des grands musées, des ONG. Il y a, je crois, que toute une sensibilisation qui est en cours aujourd'hui, que ça ne soit pas acceptable, ce n'est pas éthique, ce n'est pas moral de faire de telles choses. Il faut arrêter les canaux parce que quand il y a le trafic, il y a des deux côtés. Il y a le côté qui fournit ces objets, mais il y a ceux qui les achètent. Et il faut couper les liens entre les deux.
Souhaiteriez-vous voir, par exemple, le Conseil de sécurité s'engager davantage sur des questions dites culturelles ?
Je crois que dans la destruction du patrimoine, quand ça représente une menace pour la sécurité, bien évidemment, et c'est pourquoi la résolution du Conseil de sécurité est tellement importante. Et c'est aussi d'ailleurs si important qu'il y avait une déclaration du Conseil de sécurité après le saccage du musée de Mossoul.
La précarité de la situation sécuritaire à Mossoul et ailleurs en Irak empêche pour le moment l'UNESCO de dépêcher des équipes sur place pour mieux se rendre compte de l'ampleur des destructions et des besoins. En attendant, l'organisation travaille avec de nombreux intermédiaires pour déterminer si les objets qui ont été enlevés du musée de Mossoul et d'ailleurs risquent d'être retrouvés sur le marché noir. En dépit de la situation dramatique que connaît actuellement l'Irak, une petite lumière d'espoir subsiste néanmoins, celle de la réouverture fin février du musée de Bagdad, institution qui a été accompagnée par l'UNESCO tout au long de plus d'une décennie de fermeture. Axel Platt est le directeur du bureau de l'UNESCO pour l'Irak.
Le musée a rouvert après 12 ans, ça a été fermé en avril 2003. Nous avons accompagné le musée tout au long de ces 12 ans de fermeture pour particulièrement renforcer les capacités du musée de mieux travailler. Nous avons mis à disposition du musée de l'équipement des laboratoires qui ont été financés par le Japon. Nous avons organisé des missions d'experts. Nous avons organisé des ateliers pour les spécialistes du musée. Et aussi le musée a travaillé beaucoup ces dernières années pour compléter les inventaires qui sont toujours pas complets. Nous allons leur aider à compléter ces inventaires, puisque ces inventaires sont des outils extrêmement importants pour mieux gérer les collections et aussi de les mieux préparer au cas d'attaque ou au cas de désastre. Donc, je pense que les mesures ont été prises, que la même situation qu'on a vu à Mossoul ne pourra pas se reproduire à Bagdad. Et récemment, on a parlé avec les responsables du musée, avec le vice-ministre du tourisme et des antiquités, d'un nouveau projet également financé par le Japon qui aidera les musées à se préparer mieux à des désastres et des problèmes qui peuvent se présenter à nouveau dans cette situation de sécurité politique très difficile.
Vous avez donc évoqué l'appui technique qu'a fourni l'UNESCO tout au cours de ces 12 années de fermeture du musée de Bagdad. De quoi s'agissait-il exactement ? Est-ce qu'il s'agissait de mieux former le personnel à des techniques de conservation ? Est-ce qu'il s'agissait aussi de les aider à retrouver des œuvres pillées ? Parce qu'on sait que des milliers d'œuvres ont disparu des collections de musées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, en effet, il y a un très grand nombre des objets qui ont disparu, des dizaines de milliers, comme vous le disiez. Il y a une grande partie qui est retournée. Je ne peux pas vous le dire en pourcentage, mais c'est une partie considérable qui a été restituée au musée. Notre assistance a consisté à alerter le public et les marchés de l'art et les agents de douane des pays voisinants de l'Irak pour aider à restituer ces collections, à éviter qu'ils soient trafiqués effectivement.
Est-ce que vous envisagez des mesures similaires pour aider le musée de Mossoul à se remettre des dernières attaques ? Et également, est-ce que vous avez pu apprendre de l'évolution de la situation sur le terrain depuis ce pillage ?
Nous sommes toujours en train d'essayer de faire un bilan de ce qui s'est passé vraiment à Mossoul, quel est le nombre des objets qui ont été détruits, quelle nature exacte étaient ces objets. Est-ce qu'il y avait des objets qui ont été enlevés du musée et qui peuvent être mis sur le marché noir? Donc c'est trop tôt pour vous dire exactement quelle est la situation exacte après le saccage du musée. Ce que nous savons, c'est que le nombre des objets dans le musée à Mossoul n'était pas aussi grand, puisque à partir de 2003, une grande partie des objets ont été transférés à Bagdad pour différentes raisons, pour les raisons de sauvegarde des collections, mais aussi parce que le musée devrait être rénové. Ceci dit, les conséquences de l'attaque et la destruction qui a eu lieu est énorme. Et il y a des objets irremplaçables qui ont été détruits, donc ils ne sont plus accessibles dorénavant aux Irakiens ou aux visiteurs du monde entier.
Et vous savez, nous faisons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets, de la capacitation. On travaille beaucoup avec la communauté des experts. J'ai visité le musée de Bagdad moi-même au mois de novembre. C'était juste, je dirais, le travail final de la rénovation de ce musée dont l'UNESCO est tellement impliqué. Et maintenant, l'inauguration était, de ma part aussi, un fort message vers le peuple irakien que le gouvernement et, je dirais, que la culture compte, que l'héritage compte, qu'il faut le protéger, il faut le préserver. Ça donne, je dirais, beaucoup d'espoir au peuple irakien de surmonter ces divisions que nous voyons aujourd'hui, le sectarisme qui ravage cette société et ce pays. L'UNESCO a beaucoup travaillé avec l'université aussi de Bagdad, beaucoup travaillé avec les différentes équipes des archéologues. Et on va continuer, nous allons continuer à travailler. Et en plus, nous savons que le musée de Bagdad, il y a toujours des objets à récupérer pour que ça soit vraiment, que ça donne toute la richesse de cette collection extraordinaire. Nous savons aussi que certains des objets du musée de Mossoul avaient été transférés au musée de Bagdad parce que avant l'occupation du musée, avant les extrémistes, le musée était en train d'être renouvelé, d'ailleurs comme le musée de Bagdad. Et si vous avez noté aussi, certaines des statues étaient emballées pour être préparé pour l'exposition. Alors nous allons continuer à travailler avec plus de responsabilités et plus de la conviction que la culture et l'héritage sont extrêmement importants dans ces moments d'épreuve pour le peuple irakien.
Et c'est avec Irina Bokova que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et les podcasts, les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.